L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voilà donc toujours sur le chemin de l'Évangile pour le couple. Et donc la dernière fois, nous avons entamé cette réflexion que nous allons continuer aujourd'hui sur le fait que c'est le Christ qui nous conduit à la vraie liberté et que nous pouvons goûter cette liberté personnelle mais aussi conjugale et ce bonheur et cette promesse qu'avec le Christ. Donc relisons pas le même texte que nous avions lu la semaine dernière parce que nous allons continuer la méditation sur ce texte évangélique tiré des chapitres 14 et 16 de Jean.
Faites-moi confiance, je reviens vers vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, l'Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière.
Voilà, vers la vérité tout entière. Et c'est justement ce que nous voulons vraiment essayer de découvrir avec vous, c'est combien le Christ est vraiment ce libérateur.
Alors il y a un acte de foi à poser justement sur les trois dimensions, si je peux dire, actives, efficaces du Christ pour nous. La première, Jésus est vivant, il est vraiment le ressuscité, il est vraiment celui qui a vaincu la mort et qui, dans ma vie, peut m'aider à vaincre mes morts.
Alors, on va peut-être dire les trois d'abord, et puis après revenir après à chacune. Hein, c'est que Jésus est vivant et ressuscité, Jésus est Seigneur et Jésus est Sauveur. C'est le cœur de la confession sur le Christ, sur le Fils de Dieu, qui fait qu'effectivement, c'est cette vérité qui nous conduit à la vraie liberté. Alors d'abord, comme tu avais commencé, Maud, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité.
Voilà, ça c'est le fondement de toute notre foi. Si jamais Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dit l'apôtre. Et de fait, c'est parce que le Christ est ressuscité que toute cette histoire des chrétiens a démarré. Il n'y aurait aucun sens à professer, je dirais, quelque chose de spécifique à Jésus par rapport à tous ceux que nous avons pu découvrir dans la littérature, dans tout ça. Il aurait pu être qu'un brave prophète comme les autres. Et voilà qu'il est intervenu cette chose fondamentale, c'est que le Christ est ressuscité après sa mort. C'est-à-dire qu'il a brisé la mort et que grâce à lui, cette ouverture dans toutes nos morts est possible.
Ça a une conséquence très importante, à la fois au niveau de la vie personnelle et à la fois au niveau de la vie conjugale. Ça nous libère d'une angoisse et d'une tristesse fondamentale. C'est que la mort, entre guillemets, par la foi, n'est plus un problème. Je sais qu'à un moment, je peux m'appuyer sur un Dieu qui est mon sauveur et qui me conduit à la vie, et la mort qui vient ne sera qu'une étape, ne sera qu'une transition. Et en plus, pour une vie qui sera encore plus extraordinaire que celle que je vis maintenant.
Voilà, bon, attention, il ne faut quand même pas dire avec légèreté que la mort n'est qu'un passage, une transition. C'est un passage, une transition vers une autre vie, comme une naissance nouvelle d'ailleurs. Certains l'appellent la naissance au ciel. C'est vrai, mais ça n'empêche pas nos douleurs, nos arrachements et tout ce que nous avons à vivre comme dépouillement qui, pour nous aider justement à entrer dans la plénitude de cette libération.
Mais effectivement, la foi dans le Christ ressuscité fait dire et nous fait dire avec Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un roc sur lequel, à ce moment-là, nous pouvons construire. À ce moment-là, je ne crains plus rien, parce qu'il est ressuscité. Et ça, du coup, ça transforme tout au niveau de ma relation, au travail, aux autres, à mon conjoint, à mes enfants. Ça donne un ancrage qui me permet, à ce moment-là, mais on a l'éternité devant soi. Ça permet une liberté. Ça, c'est un élément de libération très concret, très concret.
Et à la fois, justement, le Christ est vivant, ça veut dire aussi concrètement que je ne parle pas d'un mort, mais d'un vivant, donc de quelqu'un avec qui je peux entrer en relation. Sinon, ça n'a aucun sens de parler d'un mort comme ça. On ne parle de quelqu'un qui est mort que parce qu'il est vivant au ciel, sinon quel est l'intérêt ? Et dans quelques années ou quelques décennies, plus personne n'en parlera, si ce n'est comme la référence éventuellement de quelqu'un qui a écrit un livre ou construit un beau bâtiment. Mais ce n'est pas ça qui le fera vivre. Ce qui fait que je peux entrer en relation avec le Christ, c'est bien parce que je sais qu'il est vivant. Et c'est cette expérience fondamentale que, je dirais, tous les convertis nous apprennent, tous ceux qui découvrent le Christ dans leur vie quotidienne, ou tout à fait au hasard d'un événement ou d'un autre, ont cette expérience fulgurante de la présence d'un vivant. Et ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, justement, c'est cette rencontre avec le vivant.
Alors, deuxième point de cette trilogie, la libération est dans la personne de Jésus, dans la confession de ce qu'il est. Maude, Jésus est Seigneur, et un point pour toi qui est très important, Seigneur est Maître.
Voilà,
Seigneur et Maître.
C'est-à-dire que...
En quoi il est Seigneur ? Maude Loriot-Prévost, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire en quoi Jésus est Seigneur et en quoi Jésus est Maître ?
J'aime cette expression parce que justement, je trouve que c'est le Maître par excellence. C'est-à-dire que c'est lui qui nous apprend et qui nous guide. Mais comment il est Maître ? Ça me plaît en tant que femme. Non pas parce qu'il fait simplement des grands discours pour expliquer ce qu'il fait, mais c'est parce qu'il va poser des actes, des gestes, une façon d'être qui va être guide pour moi, qui va être enseignement pour moi. Et c'est pour ça que l'évangile est magnifique, c'est parce que quand on contemple et qu'on lit et qu'on relit, qu'on s'imagine la scène, qu'on la vit comme un film ou en étant de l'intérieur, peu importe, on commence à se laisser imprégner par ce mystère incroyable d'un guide et d'un maître qui nous apprend l'excellence sur le domaine de l'amour. Et ça, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc, il est le premier à avoir suivi ce chemin de l'amour et il nous entraîne à sa suite. Donc, il est vraiment le maître. Et puis, il est Seigneur, c'est-à-dire que je reconnais sa primauté, je reconnais qu'il est mon guide et j'accepte, comme dirait la parole, d'assouplir ma nuque qui est souvent bien raide parce qu'on a du mal à se laisser faire par un autre. Et là, je fais confiance en lui parce que j'ai vu comment est-ce que son amour est allé jusqu'au sublime.
Mais c'est là où quelque chose, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, ça libère d'une immense angoisse. Le fait qu'il soit Seigneur, ça veut dire qu'à un moment, c'est aussi toute la royauté. Vous savez que quand nous avons été baptisés, nous sommes rois, prêtres et prophètes. Voilà, avec le Christ. Donc le Seigneur est roi. Et il est Seigneur, donc c'est ça. C'est ce que les protestants ont beaucoup développé, cette notion aussi de la seigneurie du Christ. Et quand le Christ a dit à ses apôtres, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. » Mais ça donne, si nous rentrons dans cette foi, qu'il est Seigneur dans nos vies et qu'il est Maître dans nos vies, ça veut dire qu'à un moment, pour tout point de notre vie, tout élément, il a toujours quelque chose à nous dire. Non pas que tout est écrit dans l'Évangile, tout est écrit aussi dans l'Évangile, oui, non pas à régler tous nos problèmes, mais au travers de sa parole et de son Esprit Saint, effectivement, il peut venir nous éclairer dans toutes les sphères les plus concrètes de notre vie conjugale, éducation, sexualité, relations, amour, travail, etc., etc., vie sociale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est Maître, il vient nous enseigner, il vient nous accompagner constamment.
Voilà, et c'est justement cette seigneurie qui est aussi pour nous un rempart contre l'orgueil. Or, on sait que l'orgueil est à la racine de tout péché. Donc, accepter de mettre ma main dans la confiance avec le Christ, de me laisser faire, de m'abandonner à ce qu'il me dit, etc., c'est un rempart contre mon orgueil, contre ma dureté de cœur, contre mon incapacité à m'ouvrir, à écouter les autres, à les accueillir dans ce qu'ils sont différents. Et du coup, c'est une libération fabuleuse. Comme je sais d'ailleurs qui je m'aimais pas, Mais dans ce cas-là, je peux être extraordinairement décontractée. Je n'ai plus à me creuser la tête, j'ai plus qu'à me laisser faire, à essayer d'imiter le Christ et de comprendre dans quel sens il m'attire.
Alors, un point, Maud, qu'il faut souligner, parce que souvent dans la mentalité moderne, il dit « si mais Jésus est Seigneur dans ma vie, et où est-ce qu'est ma liberté, etc. » Mais relisons les Actes des Apôtres, relisons les Épîtres. Le Seigneur a constamment, par son Esprit Saint, nous a conduits, nous a accompagnés. Mais les apôtres pouvaient tout dire à chaque fois. Non, stop, c'est l'Esprit Saint, il nous laisse la liberté, mais si jamais nous l'accueillons dans notre vie, il va nous conduire, et pour une dilatation supérieure. Constamment, l'Esprit Saint a consolé, a établi, a envoyé, a guidé, a averti, a empêché, a inspiré. Les apôtres, les disciples. Voilà. Et donc, c'est vraiment, c'est une force incroyable dans notre vie que cette présence du Seigneur, cette seigneurie du Christ, elle est libératoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos personnes et pour nos couples. Allez, on respire 2 minutes et on reprend tout de suite après. Voilà, nous reprenons ce cheminement de l'évangile pour le couple, toujours sur cette question du Christ qui est vraiment notre libérateur, hein, dont l'esprit de vérité nous conduit à la vérité tout entière et à la vraie libération. Et nous étions au mot justement à parler de l'importance des 3 éléments fondamentaux de l'identité du Christ. Jésus est vivant, ressuscité, Jésus est Seigneur. Et nous en étions au 3e, Jésus est le Sauveur.
Voilà, alors Jésus est Sauveur, bien sûr, on l'a abondamment abordé dans les tout débuts de cette série, mais on peut prendre comme image l'icône de la résurrection du Christ. Je ne sais pas si les auditeurs la connaissent. On voit le Christ qui arrache des tombeaux Adam et Ève en les empoignant vigoureusement et en les tirant par le bras. Donc c'est vraiment très très significatif de la façon dont on a l'impression qu'il a une énergie absolument incroyable et qui soulève comme si c'était des petites poupées de rien du tout, Adam et Ève qui sortent justement de leur tombeau. Donc pour nous c'est vraiment très significatif de ce que le Seigneur réalise dans nos vies de couple. Il attrape l'homme et la femme et il les entraîne vers la vie.
Je rigole parce qu'en t'entendant, parce que alors que je t'écoute, je suis en train de regarder cette icône qui est en grand dans ce studio. Et quand je vois effectivement le Christ, mais empoigné littéralement, les poignets de Adam et de Ève, qu'on voit vraiment que les enfers sont fracturés, que dans l'abîme et dans le shéol qui apparaît dans la bas de l'icône, on voit ces chaînes fracturées, etc. Ben on voit que c'est pas du roudoudou, quoi. On voit pas que c'est pas Jésus qui invite très poliment et sagement monsieur et madame à bien vouloir, etc., etc. Non, on sent vraiment que le Seigneur, il vient transformer nos vies, il vient libérer nos vies. Et on voit vraiment que ces tombeaux, que le couvercle des combos est au fil fracturé, bousculé. Voilà. Donc le Seigneur vient vraiment, quand il dit qu'il vient nous sauver, on n'est pas à mettre du roudoudou dans nos vies. Il vient transformer puissamment pour que nous puissions vraiment goûter cette profonde vie nouvelle, à la fois à titre personnel et à la fois à titre conjugal.
Voilà, sans avoir vécu des drames peut-être existentiels très profonds, nous savons tous, et peut-être c'est important de l'avouer, comme le Christ nous a libérés. Il nous sauve de nos faiblesses, de nos fragilités, de notre péché, et il nous redonne la vie. Et pourquoi, comment est-ce qu'il peut faire ça? Ben, d'abord quand moi je reconnais mon besoin du Christ, et quand j'accueille son pardon, parce que c'est parce que le Christ me pardonne et qu'il me remplit de sa miséricorde que je peux me regarder en vérité et accepter de faire ce chemin de guérison. Et Jésus vient guérir mes blessures. Il les enlève pas, mais simplement il les guérit. C'est-à-dire que je peux passer la main sur la cicatrice sans hurler. Bien sûr, la cicatrice, elle demeurera, mais le Seigneur va la transfigurer. Et souvent, d'ailleurs, c'est dans nos cicatrices que le Seigneur vient faire justement un lieu de compassion pour les autres. Et après cette guérison, le Christ va aussi me protéger et me délivrer des attaques, des rechutes. Il va me donner progressivement de plus en plus de force personnelle en moi-même pour ne pas retomber dans mes anciens travers.
Et combien toute cette question de Jésus Sauveur est importante en tant que couple, mais aussi en tant que famille. Combien effectivement, Maud, ce salut du Christ concrètement sur le pardon, sur la guérison, sur la protection, sur le rempart contre les attaques du malin, combien c'est une réalité concrète, combien de témoignages de couples, de familles avons-nous entendu qui ont vraiment fait, choisi délibérément de se mettre sous la protection de Christ, sous son regard, en disant vraiment tu es le roc sur lequel nous voulons construire. Et effectivement, dans les choses les plus concrètes, le Seigneur est venu vraiment attester combien il était le sauveur aussi de cette famille.
Voilà. Alors c'est ce qui est vrai, c'est que c'est pas parce qu'on dit que le Seigneur est un sauveur vigoureux qu'on attend des grands coups de tonnerre et des éclairs dans la maison quand on l'invoque.
Bah, il est les deux. Il est les deux. Il à la fois c'est la brise légère.
La brise légère qui intervient dans la douceur et la profondeur du cœur, et à la fois avec l'énergie de l'ouragan. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette dualité.
On a toute la gamme.
Voilà. Et tout. Bon, je pense qu'on peut. On peut maintenant déboucher plutôt sur les fruits, parce que c'est une bonne façon de savoir si le Seigneur a fait son œuvre de guérison, de libération dans mon cœur. C'est de savoir aussi quels sont les fruits de notre communion. Si le Christ est vraiment dans notre vie conjugale, alors si jamais il y a réellement sa présence et qu'il a fait ce travail en moi, je vais en voir les fruits, concrètement, dans ma vie.
Nous allons en voir. C'est-à-dire, travaillons justement sur les fruits de cette réalité du Christ dans nos vies conjugales.
Voilà, donc nous allons grandir d'abord dans la confiance, la confiance réciproque et puis la confiance surtout en Dieu, l'abandon. Je me souviens de grands-parents qui disaient il y a pas très longtemps, ils étaient interviewés parce que je sais plus combien d'années de mariage ils fêtaient, ils me disaient est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez ? Ils disaient oui, on s'est fait trop de soucis pour rien dans notre vie, sur des tas de choses, on n'aurait jamais dû se faire du souci. Ça n'a pas arrangé le problème, ça nous a compliqué la vie et nous manquions de confiance en Dieu. Et a posteriori, avec du recul, on s'est rendu compte que la confiance était finalement la meilleure façon de dépasser les épreuves.
Combien de fois, dans les choses très concrètes, par exemple, on voit que par rapport à des difficultés qu'on peut avoir, par rapport au travail, par rapport aux enfants et tout, effectivement, il y a une difficulté, il y a une épreuve, etc. Et combien de fois, effectivement, parce que le Seigneur nous l'a enseigné, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça portait beaucoup de fruits, on a dit, écoute, là, on a quelque chose de difficile, mais le Seigneur va nous enseigner au travers de ce qui va se passer. Attends, ne commençons pas à voler l'avenir de ce qui va se passer. Écoutons le Seigneur, marchons pas à pas. Ce qu'on a dit l'autre fois par rapport à cette marche dans le désert comme le peuple hébreu, le Seigneur nous donne sa manne au jour le jour, il nous conduit par la nuée. La promesse, elle n'est jamais enlevée par le Seigneur. Il nous conduit à la terre promise. Donc, au fur et à mesure, il va nous éclairer. Et cette confiance, ben on se rend compte effectivement que c'est source de paix.
Cette confiance peut se vivre aussi dans la transparence mutuelle, parce que comme on est confiant l'un vis-à-vis de l'autre aussi, en Christ, on peut se partager ce que nous vivons en profondeur. Et nous pouvons dire la vérité à notre conjoint sur ce que nous vivons. Combien de fois je rencontre des femmes ou des hommes qui disent « Non, mais ça je peux surtout pas en parler à mon mari ». Ben non, dans le Christ, qu'est-ce qu'on craint? Puisque quand on peut parler en vérité, ben on peut aussi demander la prière de l'autre, l'intercession de l'autre pour nous aider à grandir et à guérir de nos travers, de nos difficultés. Moi, je n'ai rien à cacher à mon conjoint quand je sais que c'est de toute façon le Christ qui, lui, a les cartes en main et qui va m'aider à passer ces étapes.
Bon, et puis en plus, je vais te dire, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que moi, je sais que je suis un tocard. Je sais que je suis marié avec un tocard féminin. Ça fait deux tocards, côte à côte. Donc, de toute façon, effectivement, quand l'un a effectivement un problème quelque part, l'autre, la autre part, de toute façon, je veux dire, on est mal fagotés l'un et l'autre, et on avance brinque-ballant. Bon. Et donc, effectivement, de par tout ce qu'on disait par rapport au mystère conjugal, etc., ce que le Christ fait en nous, eh bien, au fur et à mesure, on est chacun la porte étroite. Et effectivement, effectivement, moi j'attends que Maud puisse, entre guillemets, me corriger. Me dire, écoute Alex, il faut que tu progresses là-dessus, etc.
Voilà, la porte étroite, je crois qu'Alex, il faut que tu précises, parce que la porte étroite, ça évoque peut-être pas grand-chose à tout le monde. C'est justement cette petite porte de Jérusalem par laquelle il fallait faire passer les chameaux en enlevant tout ce qu'ils avaient sur le dos, parce que sinon ils rentraient pas, qui s'appelait la porte du chat, donc cette image du chat de l'aiguille. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut justement chaque conjoint, cherchant à attirer l'autre vers un plus grand bonheur, va l'aider à grandir dans sa conversion personnelle, donc à se dépouiller de tout ce qui est inutile. Et c'est en ce sens que nous sommes chacun, l'un et l'autre, des stimulants efficaces pour notre conversion.
Voilà, très efficace. À la moment, tu es très efficace, mon amour.
Oui, je crois que c'est réciproque.
Et c'est pour ça, bien sûr, que tout ça, transparence, correction, est forcément lié avec le pardon. Donc, c'est parce que, justement, nous sommes ancrés dans le Christ que nous pouvons, entre guillemets, enclencher le cercle vertueux de la foi, cette confiance dans le Christ, de cette transparence, cette correction, de le pardon, etc. Et c'est un cercle vertueux. Mais c'est bien sûr qu'à des moments, on se plante, on se ramasse, on est incapable de le vivre. Mais comme on a ce cap, à un moment, on peut remonter dans le wagon, on peut remonter dans le train et continuer à construire, tant bien que mal, avec nos pauvretés, nos difficultés, nos handicaps, etc., etc. Mais ça y est, on a le cap, et on voit, et le Seigneur nous conduit là-dedans. Et à ce moment-là, ça construit bien sûr une relation conjugale exigeante, mais tellement dilatante.
Voilà, on rentre dans une relation extraordinairement riche et dense, et je crois que ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et tout ce travail de conversion, de vérité, de transparence, il prend tout son sens aussi dans cette beauté de la relation qu'on peut créer à deux dans ces conditions-là.
Voilà. Et pour finir, on peut vraiment prendre cette parole dans Jean, qui rapporte les paroles du Christ. Hein, c'est applicable, bien sûr, à la vie conjugale. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué. Donc institué en tant que couple, pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parce que nous pouvons vivre cet ancrage fondamental dans le Christ. Voilà, c'est une grande bénédiction, cette libération et cette joie immense de le connaître, de l'aimer et de faire fructifier cette vérité de la révélation au cœur du couple. Allez, soyez bénis et à la semaine prochaine. The amazing grace.
Extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.